rien à y faire, soit parce que ce sont des gens pour lesquels il faudrait une prise en charge sociale, soit parce que ce sont des gens pour lesquels il faudrait d'autres moyens de peine. Il faut que la prison demeure le dernier recours, ce qu'elle était sous l'ancien gouvernement, théoriquement dans les textes. On disait beaucoup, la détention provisoire est exceptionnelle, il faut chercher autre chose. Oui, on sait que la prison est criminogène, on cesse de le répéter, cherchons autre chose avant que les gens rentrent en prison. Multiplions les sites susceptibles d'accueillir des gens qui sont condamnés à des peines de travail d'intérêt général. Multiplions les prises en charge à l'extérieur. Une des grosses causes de la délinquance, c'est quand même la misère sociale. Et il suffit de se rendre sur ce qu'étaient les audiences correctionnelles autrefois pour constater que dans l'ensemble, les gens qui comparaissent devant un tribunal sont des gens qui sont en grande difficulté. Alors, certes, enfin moi je ne nie pas que le droit pénal a un sens et que les règles de la vie en société peuvent être rappelées par ce biais. Simplement, la réponse peut être beaucoup plus intelligente. Il faut évidemment incarcérer moins, incarcérer mieux, dans de meilleures conditions. Il faut que les gens rentrent moins en prison et que quand ils y sont, ils y bénéficient de droits. Ce n'est pas parce qu'on est incarcéré qu'on est privé de ses droits de citoyen et qu'on doit pouvoir rétablir en détention et dans certaines structures qui ne seraient même plus des prisons au sens où on l'entendait autrefois, les droits des détenus, ce qui, s'ils se réapproprient leur vie citoyenne, les aidera forcément le jour où ils seront amenés à vivre de nouveau parmi nous. Parce que ça aussi, je veux dire, la rétention de sûreté, par exemple, qui consiste à dire on va garder enfermé quelqu'un, ce qui était le cas sous l'ancien gouvernement, même à l'expiration de sa peine, parce qu'on ne veut plus de lui dans la société, ça n'est pas possible. L'essence même du droit pénal, c'est de dire quelqu'un a été condamné et après, une fois qu'il a purgé sa peine, une fois qu'il a accompli la sanction, il reprend sa place dans la société et c'est ce vers quoi il faut tendre.
Mais est-ce que vous ne pensez pas prendre à rebrousse-poil ainsi une partie de l'opinion publique qui avait été quand même assez encouragée dans ce sens-là par le gouvernement qui parlait du droit des victimes? La justice, c'est pour le droit des victimes, la réparation des victimes. Et vous, vous me parlez de droit des détenus et des coupables.
Alors, il y a eu une exploitation du droit des victimes sous le précédent gouvernement. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il y a longtemps, les victimes ont été les oubliées du procès pénal et il était normal de leur redonner leur place que nous voulons conserver. Évidemment, il est important que la victime soit entendue. Mais, contrairement à ce qui a été tenté par le précédent gouvernement, juste avant qu'il chute, il ne s'agit pas de donner à ces victimes la place du ministère public. La victime est une partie au procès. Elle est une partie importante, elle est une partie essentielle, mais elle est une partie au même titre que l'auteur. Et il est important que le juge conserve cet équilibre entre la parole de la victime et la parole de l'auteur. On a essayé de faire passer l'idée que la victime pouvait faire appel de toutes les remises en liberté du détenu. Ça n'a pas de sens. Évidemment qu'on ne peut pas demander à une victime d'abord de juger et d'être d'accord avec la mise en liberté de son agresseur. Et je l'entends bien, si moi-même je suis victime, par définition, je ne jugerai pas. Donc, il ne s'agit pas de flouer les droits des victimes, il s'agit de les entendre, mais il s'agit de laisser à la justice la possibilité de faire son travail en conservant les droits de toutes les parties. Et c'est ce vers quoi nous nous dirigeons et nous nous dirigerons le plus rapidement possible.
Une autre question au standard.
Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Moi, mon fils qui a 18 ans a fait 24 heures de garde à vue pour outrage à agent. Beaucoup de ses amis ont également fait un séjour en garde à vue de manière totalement abusive. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses. D'une part, une répression très forte pour des délits mineurs avec comparution immédiate et sanctions. Et d'autre part, un laxisme en ce qui concerne la délinquance en col blanc. Alors, ma question à Madame Taron, c'est est-ce qu'elle compte rétablir une justice égale pour tous? Merci.
Alors, Madame Clarisse Taron, y a-t-il bel et bien une justice à deux vitesses dans notre pays entre les petits délits et la criminalité en col blanc, c'est-à-dire la criminalité économique et financière?
C'est parfaitement exact. Alors évidemment, il faut arrêter de s'intéresser à cette petite délinquance qui, là encore, est la traduction de la politique du chiffre au ministère de l'Intérieur. Mais mon collègue ministre de l'Intérieur est sur la même ligne que moi, je ne suis pas très inquiète sur cette question. C'est-à-dire qu'il est important qu'on arrête de relever des infractions ridicules. La multiplication des outrages dont vous parliez, c'est un phénomène absolument éclairant de cette situation. C'est-à-dire qu'un outrage, c'est élucidé au moment où c'est commis, évidemment, et forcément. Un outrage, c'est facile. Et ça ne demande pas beaucoup de travail pour avoir une affaire élucidée. Et si cette infraction est relevée, et même pendant qu'on fait cette procédure pour outrage, on ne fait pas une autre procédure parce que les services